Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club et c'est l'épisode 425. Aujourd'hui, on reçoit un garçon qui en quelques semaines est passé du statut de prospect à celui de nouveau combattant UFC avec déjà une première victoire dans l'octogone de la plus grande organisation du monde. Je vous le présente dans quelques instants, le temps pour moi d'accueillir celui qui est très loin d'être un prospect puisque c'est Baba le pilier du podcast qui est à mes côtés. Salut Baba.
Salut, comment ça va Charles?
Ça va, bah, très bien, toi, c'est un peu notre entrée ensemble.
Ouais, ça va.
On retrouve le beau studio, on se retrouve tous les deux. Merci à Mika Lebeau avec qui t'as fait preview du Axel Sola Fares Diam, qui a beaucoup plu d'ailleurs.
C'était
super cool, super intéressant, même pour moi, écouter depuis tu vois, le petit transat en vacances, c'était très kiffant à écouter. Ça va, la rentrée se passe bien?
Très bien, écoute, très bien, tout va bien. Il y a les enfants en régie, c'est pas encore exactement la rentrée, mais...
Il y a les enfants en régie, ça se remplit dans Paris, ça y est. Paris reprend vie un petit peu, donc on sent que c'est la rentrée aussi pour nous, parce qu'il y a l'UFC Paris qui arrive très très vite.
Ça y est, ça va arriver très vite, vous le savez, hein, dans une dizaine de jours maintenant, on est là, on sera la semaine prochaine en Fight Week. Et on a beaucoup de choses à vous proposer, donc soyez branchés.
Ce sera le cas sur RMC Sport en général, évidemment, dans le RMC Fighter Club. Et donc, en studio aujourd'hui avec nous, il a fait ses débuts dans la plus grande organisation du monde en MMA le 1er août dernier. Celui que personne n'a vu arriver n'aura eu besoin que d'une minute 21 pour terminer son adversaire, le tout en ouverture de main card d'une soirée complètement dingue du côté de Belgrade. En Serbie, salut Noah Gugnon et merci d'être avec nous.
Merci, salut à tous, merci pour l'invitation.
Tout va bien, merci, c'est la première fois qu'on te reçoit ici, c'est la première fois que tu viens chez RMC Sport. Tu avais déjà participé au Sunday, donc voilà, on est très content de pouvoir t'accueillir. Est-ce que tu es en train de vivre le meilleur été de ta vie?
Ah oui, là totalement, je vis le meilleur été de ma vie. Donc là, c'est que du kiff depuis un petit mois maintenant.
Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a eu la signature en début d'été, et puis là, milieu d'été, la victoire, et puis là, la fin d'été, je pense... se prépare aussi, tu vas nous en dire peut-être plus sur une... T'as peut-être une idée déjà de quand tu vas pouvoir combattre à nouveau ou pas?
Pas encore.
Bon, écoute, on va en parler parce que les échéances, comme tu l'as souvent dit, vont s'enchaîner pour toi. Tu veux combattre tous les 3-4 mois, donc on imagine que d'ici la fin de l'année, on aura des chances de te revoir dans la cage de l'UFC, surtout que t'es intact, hein, après ce combat que t'as fait du côté de la Serbie. On va parler donc de plein de choses ensemble, de ton parcours, de tes ambitions. On va revenir en détail sur ton combat et on veut aussi t'entendre sur l'UFC Paris. T'as eu l'occasion de combattre Fares Diam à la Arena, mais je crois que ton entourage et toi avaient refusé cette proposition, donc c'est aussi l'occasion aujourd'hui de clarifier tout ça. On va en parler si t'es d'accord.
D'accord, bien sûr.
Allez, super, et bah c'est parti pour le RMC Fighter Club avec notre invité Noah Gugnon. Noah Gugnon, 25 ans, t'es arrivé à l'UFC sur une série de 5 victoires consécutives, toutes avant la limite. Sur tes 10 victoires pro, il y en a maintenant 6, elles ont toutes été avant la limite. 10 victoires, 2 défaites et surtout donc 100% de victoires avant la limite. Ça, c'est une stat qui est assez dingue et qui résume bien, je crois, la mentalité Noah Gugnon, quoi qu'il arrive depuis que t'as commencé. Aller chercher le finish le plus tôt possible, c'est un petit peu ton ADN?
C'est ça en fait, je vais pas laisser la décision entre les mains du juge, donc du coup ce qui m'oblige à mettre une pression constante à mon adversaire et rechercher le finish en permanence.
Je crois que depuis que t'es passé pro, je t'ai entendu dire que t'avais jamais pris plus d'une semaine de repos. Qu'est-ce qui s'est passé là sur ce mois qui vient de s'écouler depuis le 1er août? Est-ce que t'as pris un peu plus de repos? Est-ce que t'es retourné à l'entraînement tout de suite? Comment t'as organisé ces dernières semaines?
En fait, juste après le combat, je me suis forcé à prendre au moins une semaine de repos. Je voulais retourner à l'entraînement tout de suite, mais bon, c'était mieux de me reposer un petit peu. Ensuite, je suis tombé malade, donc voilà, j'ai pris 2 semaines de repos finalement.
Un virus,
une petite maladie, rien de bien grave, une petite grippe après le combat.
La clim de l'avion, non, pour revenir, ou quelque chose comme ça?
Peut-être la clim de la salle à Belgrade.
c'est toi qui as mis la clim à Belgrade.
C'est pour ça
que t'étais trop proche. Et donc du coup, il y a eu 2 semaines de repos, ce qui t'arrive jamais, ça t'a fait bizarre. T'es revenu à l'entraînement, t'as voulu mettre les bouchées doux pour compenser quelque chose, ça t'a fait bizarre?
Ben en fait, ça me fait bizarre parce que mon quotidien est vraiment rythmé par les entraînements. Je me lève le matin, je vais à l'entraînement, je fais la sieste, je vais à l'entraînement. Et du coup, de faire 2 semaines sans m'entraîner, c'est vraiment quelque chose que je découvre parce que ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas fait.
Et ton entourage était d'accord avec ça? Est-ce que Guillaume Pelletier, est-ce que tes entraîneurs, ils ont aussi dit « Allez, c'est très bien, profite de ce moment-là, tu viens de vivre une grosse émotion, repose-toi et tu vas revenir encore plus fort et tu vas pouvoir t'entraîner encore plus.
Ben bien sûr, mon staff m'encourage à prendre du repos parce que c'était une préparation qui était quand même vachement difficile. J'avais pas énormément de temps pour me préparer, j'avais eu uniquement 5 semaines, et ce qui a nécessité une préparation plus courte mais beaucoup plus intense qu'en temps normal. Donc mon corps a pris un peu plus cher que d'habitude.
Ouais, ce que tu me disais en off, c'est que comme c'était court et qu'il a fallu faire beaucoup pour préparer un combat comme ça en 3 reprises et surtout tes débuts à l'UFC, en fait t'as pas eu de blessure par rapport au combat en lui-même, mais plus par rapport à la préparation.
C'est ça, c'est la préparation qui a été vraiment le plus difficile, entre enchaîner les sessions de sparring, de test match et de thème, tout ça sur un laps de temps assez court. Donc on a dû mettre un peu les bouchées doubles pour préparer l'échéance.
C'est, j'imagine que la structure aussi, alors faut bien toujours différencier, hein, structure de management, structure d'entraînement, parce que t'es à la BTT avec Guillaume Pelletier notamment, et c'est vrai que c'est une grosse structure où il y a beaucoup de combattants. Est-ce que ça t'aide quand même à pouvoir trouver des sparring plus facilement, par exemple sur cette période qui a été assez courte pour préparer ton combat? Est-ce que Guillaume a mis les moyens pour que tu puisses trouver des sparring par exemple plus facilement, ou est-ce que du côté de Lyon il y en avait assez qui étaient déjà prêts pour te préparer à cette échéance-là?
Ben, Guillaume m'avait proposé certains sparring partners si j'étais un peu en difficulté durant ces vacances, parce qu'on sait que voilà, l'été il y a beaucoup de fighters qui partent en vacances et les gyms tournent un peu au ralenti. Mais en fait moi autour de Lyon, la préparation a vraiment été calée autour de moi, donc franchement j'avais vraiment pas à me plaindre au niveau des sparring. C'était une préparation tout à fait classique malgré l'été.
Bon, en tout cas, pour la première fois, l'UFC était à Belgrade et t'as donc affronté Milos Janisic, un Monténégrin, au bilan de 19 victoires pour 3 défaites, donc très expérimenté, et lui aussi 100% de finish, c'est assez rare, 100% ouais. de finish des deux combattants avec autant de fights. On y reviendra tout à l'heure. On se doutait que ça allait être explosif, hein, Baba, quand on connaît le style de Noah et quand on voyait aussi le palmarès de Janisic. Moins d'une minute trente, et lui a un peu tout fait, hein. Il y a eu low kick, il y a eu aussi, mine de rien, cette garde qui a été bien en place pour provoquer une blessure chez son adversaire. Et puis même au sol, il y a eu du ground and pound, il y a eu de la prise de dos, et ça termine par une soumission. Donc finalement, en 1 minute 21, ouais. Noah, il a montré un panel assez large de ses capacités.
Ouais, bah c'est ça qui est super cool, parce qu'on sait que le premier combat à l'UFC, c'est un petit peu ton entretien d'embauche réel, tu vois. Et c'est difficile de montrer toutes ses qualités, comme n'importe quelle personne qui va à un entretien d'embauche, tu vois. En vrai, tu mets un costume alors que tu vas pas le mettre tous les jours au travail, tu vas parler différemment, tu vois. Et tu pourras pas montrer toutes tes qualités. Sauf que là, la physionomie du combat a fait que Noah, il a pu tout montrer. Et là où c'est intéressant, surtout pour moi, c'est que tu termines par étranglement arrière. Toutes tes victoires par soumission, c'est des étranglements arrière, donc comme ça, c'est réglé. Souvent, l'étranglement arrière, il vient parce que tu as dominé debout. En règle générale, tu touches et l'opportunité de prendre le dos, elle est là. Tu te définirais plus toi comme un pur striker qui cherche le KO, ou vraiment finisseur opportuniste, peu importe ce qui se passe, tant que tu termines, t'es content?
En fait, moi je suis un opportuniste, mais de base mon bagage c'est plutôt un bagage de lutteur grappleur. Sur mes derniers combats à l'ARES, j'ai essentiellement montré du striking, mais c'est pas mon point fort. J'ai nettement amélioré mon striking, mais de base je suis plutôt un style lutteur grappleur, même si je préfère striker durant mes combats.
Et dans le style, on parle souvent de Saladin Parnasse en disant c'est un pur produit MMA, c'est le premier pur produit MMA qui brille à ce niveau là même si toi t'as des bases qui sont un peu différente, parce que c'est la boxe anglaise notamment qui t'a donné envie de passer au MMA. Aujourd'hui, t'es un combattant MMA à 100%, c'est-à-dire ta base est du MMA pur, entre guillemets, ou alors tu dirais que t'as quand même ces bases et c'est cette histoire qui vient d'autres disciplines?
Non, j'ai adapté tout mon jeu vraiment pour les MMA, même lorsque je fais des sens spécifiques type boxe anglaise, j'essaie vraiment d'appliquer des déplacements et des attitudes typiquement MMA. Je pense que c'est vraiment très important de passer par pied et de prendre des mauvaises habitudes des différentes disciplines.
Bon, pour revenir sur le combat, Noah, il y a eu au bout de 20 secondes, il y a donc ce kick du gauche qui est envoyé, ta garde elle est bien en place, et du coup son pied vient s'écraser sur ton coude, en fait, le dessus de ton pied vient s'écraser sur ton coude. On voit que ça provoque tout de suite une gêne. Toi, à ce moment-là du combat, comment est-ce que tu analyses? Tu vois qu'il change de garde, il est un petit peu moins à l'aise, il essaye d'y aller tout de suite avec les poings en disant « faut que je connecte, sinon je vais avoir des difficultés ». Comment tu analyses cet instant-là du combat?
En réalité, c'est pas le kick qui a blessé mon adversaire, c'est mon calf kick. Mon calf kick que je mets au bout de 10 secondes de combat, on voit qu'il a du mal à reposer sa jambe. Et que par dépit, derrière, il envoie son kick. Mais il a eu absolument aucune fracture du pied derrière. Même son coach l'a écrit sur Instagram que c'était vraiment le calf kick qui a anesthésié sa jambe. Et du coup, vu qu'il a vu que sa jambe était anesthésiée, il a tenté d'envoyer un middle kick par dépit. Et ce qui a fait que j'ai capitalisé derrière en en remettant un coup sur sa jambe, mais ensuite avec une phase de grappling pour chercher l'étranglement arrière.
Toi, t'as ce petit éclair au moment où il y a le calf, peut-être derrière aussi à chaque coup qui sont envoyés, parce que du coup, en fait, tout, que ce soit ses coups à lui ou les coups que toi tu envoies, ça vient approfondir cette blessure qui avait déjà été provoquée par le calf. Toi, c'est quoi ta mentalité là-dessus ? C'est ça y est, j'ai l'habitude d'être un fonceur, mais là, faut que j'y aille encore deux fois plus vite parce que je sais qu'il y a une ouverture.
En fait, je sais que cette blessure-là, c'est une blessure qui peut paralyser la jambe, mais elle va paralyser la jambe durant un laps de temps assez court, vu que c'est un nerf qui est touché. Je pense que 2 minutes après le combat, ou peut-être 5 minutes après le combat, il a remarché normalement. Donc du coup, je me suis dit, faut que je mette la pression, faut que je continue à lui mettre des dégâts sur la jambe et capitaliser là-dessus, peu importe de quelle manière.
Ouais, il y a quand même des réactions de la part de Janicic. Il y a quand même en anglaise, il y en a une qui passe quand même, que tu prends, mais que tu encaisses bien. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est là où ça forge aussi des combattants, Baba, je pense. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder un certain contrôle de la situation, même si on a envie d'aller sur un rush, parce qu'on sait qu'on peut terminer très rapidement. Mais il faut garder un certain contrôle. On l'a vu, même au plus haut niveau, Ulberg Prochaska, par exemple, cette année. Voilà, c'est le genre de situation où il y a une blessure. Ouais. Et tu aurais pu tomber dans un piège comme ça. Noah, il n'est pas tombé dans le piège.
Non, c'est là où c'est intéressant. C'est difficile comme situation à la fois pour le combattant qui doit prendre la décision là tout de suite en une demi-seconde. Et les coachs aussi qui vont pouvoir se faire entendre pour pouvoir donner une instruction de faut aller chercher le finish ou fais attention parce que ça tape dur quand même en face. On sait qu'il a 100% de finish, donc c'est un combattant qui reste dangereux. Mais comme l'a très bien dit Noah, on connaît ce genre de choses là quand tu tapes sur le nez. Ça peut arriver aussi, notamment moi, c'est déjà arrivé à l'avant-bras. Tu sais, ça peut arriver, c'est quelque chose qui va t'endormir pendant, je sais pas, 1 minute, 2 minutes peut-être, mais normalement ça revient, tu vois. Donc ça aurait pu être différent comme physionomie si Noah se précipitait pas comme il fallait, qu'il terminait dans la garde de Janicic, qu'il arrivait à garder par exemple Noah dans sa garde, le temps de récupérer, et on parle d'un autre combat. Donc, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça montre un peu ta progression. Si on doit prendre un point de comparaison, parce qu'il faut prendre des points de comparaison, donc parlons par exemple de ton combat au Bellator. Où j'ai l'impression que tu arrives à avoir une pression un peu plus, entre guillemets, éduquée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. C'est tu te jettes moins, même si tu reconnais qu'il y a une opportunité, tu dis attends, j'y vais doucement, et je vais quand même voir le moment où je pourrais être plus précis et plus efficace que juste comme beaucoup de gens voient à l'UFC, envoyer plein de coups pour terminer. C'est quelque chose qui est conscient à ce moment-là ?
Bien sûr, c'est quelque chose qui est conscient. Je sais que je vais devoir mettre la pression, mais que mon adversaire m'attend sur une contre-attaque. Donc du coup, l'idée, c'est de continuer à mettre la pression, de toucher mon adversaire, mais sans me jeter, pour éviter, comme on l'a dit précédemment, d'arriver à une phase de clinch et que le combat soit bloqué, et que la douleur passe et que mon adversaire reprenne son combat normalement.
Et après, quand ça va au sol, est-ce que ton idée première, c'est d'aller prendre le dos ? Ou est-ce que c'est d'abord le ground and pound et puis s'il y a une soumission ?
Écoute, non, mon idée première, c'était franchement de mettre un grand endpoint, de lui mettre vraiment des sales dégâts.
Okay.
Et après, quand j'ai vu l'opportunité de prendre la montée...
Ça va très vite.
Ouais, j'ai pris parce
qu'il y a contrôle latéral, il y a montée, et puis derrière, tu réussis à
tout
prendre
ça
le dos.
Très rapidement.
Donc, ça va très très vite.
C'est ça, en fait, je voulais prendre la montée pour lui envoyer des coups et ouvrir son visage, mais il a décidé de donner le dos, donc j'en ai profité pour prendre son dos.
Et ça, ces phases-là, c'est plus chez toi du travail ou de l'instinct ? À ce moment-là, qu'est-ce qui s'exprime le plus ? C'est la discipline, c'est ces petits flashs que t'as peut-être en disant tiens, à l'entraînement j'ai travaillé ça, ou alors vraiment de l'instinct, le cerveau se déconnecte un petit peu et c'est l'instinct primaire du combattant qui parle.
Non, c'est de l'instinct. Après, je sais quand je suis en montée, il y a deux options, c'est soit il va concéder la montée et accepter le ground and pound, ou soit il va donner le dos. Donc il avait que deux options à ce moment-là, et du coup soit j'ai donné le dos, ce qui m'a permis de l'étrangler par la suite.
Même sans cette blessure, est-ce que tu t'attendais, tu savais que le combat allait très très rapidement?
Je sais, mon coach m'avait prévenu dans les vestiaires et même en amont de la préparation. Il m'a dit écoute, les premiers échanges qui vont se passer, n'aie pas peur. C'est vraiment les échanges les plus puissants qu'il pourra me donner, et plus le combat va avancer, plus tu vas avoir l'avantage. Il m'a répété ça sur les 10 premières secondes. J'ai entendu, il m'a dit c'est ses meilleurs coups, c'est ses meilleurs échanges, tu les as déjà pris, il peut rien t'arriver. Donc ce qui allait se passer par la suite, ça allait se dégrader fortement techniquement et en termes de puissance.
C'est vrai que la stat, on en a parlé tout à l'heure, tous les deux, je me l'étais noté quelque part, voilà, 19 victoires avant le combat pour lui et 9 victoires pour toi. Donc il y a 28 combats et il y a 28 finishes à vous deux, c'est assez énorme. Et je pense que c'est une stat qui est très rare à ce niveau-là. Je pense que ça arrive très très peu. C'est le genre de statistique auquel tu donnes de l'importance. Est-ce qu'elle a un impact aussi sur la préparation, par exemple pour Janicic, en se disant il n'y a que des finishes, donc on sait que ça va partir très vite. Donc toi aussi, tu sois mobilisé dès les premières secondes du combat. Comment cette stat-là, par exemple, elle est intégrée dans ton camp ?
En fait, cette stat-là, elle est intégrée dans mon camp de manière à surtout préparer le système défensif et les entames de combat. Donc là, on a vraiment préparé les entames de combat, surtout le fait de ne pas se faire toucher par le bras avant pour qu'il cherche la distance. On sait que Janicic, c'est un combattant qui utilise énormément son bras avant pour chercher la distance. Et une fois qu'il a trouvé sa distance, il balance ses KO en mettant des coups durs. Donc on a vraiment travaillé ça, les entames de combat, éviter de se faire trop toucher sur le bras avant. Et après, ben, capitaliser derrière. On avait repéré également des faiblesses sur sa jambe avant, que ce soit sur le calf kick et sur les défenses de lutte, donc tout ce qui était single leg. On a vu que voilà, que c'est passé.
C'est Baba, c'est vrai que nous, en plus, on était en plateau ensemble le soir où Noah a combattu. C'était sur MC Sport, bien évidemment. C'est vrai que toute cette trajectoire, en fait, quand on part de l'annonce de Noah qui est à l'UFC, puis derrière, un mois après, finish, il est en main card. C'est un événement un peu historique. Je vais redonner 2-3 stats juste après. Mais c'est vrai qu'on se dit que ça a été assez rapide. Et même pour nous, c'est arrivé un petit peu comme une comète. Mais du coup, il s'est tout de suite bien imposé dans la mémoire des gens parce qu'il a marqué les esprits.
Bah, moi, je pense que ce qui marque les esprits, bah, déjà, le fait que ce soit une signature qui soit pas attendue, entre guillemets, tu vois, parce que c'est vrai que dans le MMA français, on est peut-être pas loin d'être des champions du monde de la spéculation. On aime bien jouer à ce jeu toute l'année. Qui va signer, qui va pas signer. Et on se trompe très souvent, en règle générale, donc c'est mieux d'attendre. Et quand la signature est là, on commente. C'est un message pour personne, hein. je le dis même pour moi-même, celui-ci. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est que, allez, je te fais pas de majorité, je te fais pas de généralité, mais il y a quand même pas mal de monde qui pensait que Noah pourrait pas s'imposer. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, tu vois. Quand tu regardes la lecture du combat que le public avait versus ce qui s'est passé aussi rapidement, je pense que c'est surtout ça qui va marquer les esprits à la fois du public français, ce qui est cool, tu vois. Et aussi à l'international, parce que là, c'est plus la même image. Tu vois ce que je veux dire ? T'as un combattant qui vient de signer, qui fait ses débuts, franchement, dans un bourbier. On te ramène à l'étranger, chez le gars. Ouais. Enfin, tu vois, il y a rien qui va pour toi. Avec le public qui est contre toi, 81 secondes, tu termines les combats. Et ensuite, les mecs, ils vont cliquer sur topologie, ils vont dire, OK, sur ces 9 victoires, il n'y a que des finalisations. Il n'y a que ça. Donc le prochain qui va devoir préparer Noah, ouais, c'est pas le même message, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et puis moi, ce qui m'intéresse, Noah, c'est que on parlait tout à l'heure de ton style. Donc, t'as des victoires par KO, t'as des victoires par soumission. Est-ce que, stratégiquement parlant, quand tu prépares ton combat, même si t'as que 5 semaines pour le préparer, est-ce que ton but, c'est vraiment que de terminer, sachant que tu vas arriver à l'UFC et que l'adversité va monter, etc. Ou est-ce que tu penses pouvoir à un certain moment plus axer ta préparation sur ton adversaire ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est est-ce que moi je m'impose, parce que de toute façon je suis un finisseur, tout le monde le sait, et c'est à vous de vous adapter à moi et à la pression que je vais mettre, ou est-ce qu'à un moment c'est bon, là c'est différent et je vais peut-être montrer d'autres facettes de mon jeu, pourquoi pas aller jusqu'au bout du combat par exemple ?
Moi, aller jusqu'au bout du combat, ça me dérange absolument pas parce que j'ai un très bon cardio à l'entraînement, donc je peux enchaîner les rounds sans problème, garder un rythme constant. Mais mon style dans la cage, c'est d'être un rouleau compresseur, donc c'est de mettre une pression constante, une marche avant, et de faire craquer mon adversaire, d'essayer de lui faire faire des erreurs, et je capitalise sur ces erreurs-là. Si l'adversaire me donne du fil à retordre pendant 15 minutes, je vais avancer sur lui pendant 15 minutes, et voilà.
Ton message, c'est le 15 minutes, le même rythme.
15 minutes, je peux garder le même rythme, sans problème. Sans aucun problème.
Parce que c'est l'inconnu, on va dire, pour toi, tu vois ce que je veux dire, sur ta carrière pour l'instant.
La seule fois où c'est arrivé, c'était une défaite par décision partagée, où d'ailleurs, tu estimes encore l'avoir remporté, ce combat.
Et puis c'est un peu en début de carrière, c'était pas le combat de fois.
Pour prolonger la question de Baba, est-ce que je m'étais noté ça aussi, j'avais calculé qu'en gros, sur ton parcours Ares et UFC en tout, donc sur tous tes derniers combats, t'as passé que 9 minutes 05 dans la cage. Donc ça fait aussi assez peu de temps de cage. On a Baba par exemple dit souvent qu'il adore aussi voir des combats de quelqu'un qui construit sa victoire, ou quand on arrive à la décision, on se dit ok, là il a fait une masterclass, c'est beau de voir une décision qui est aussi claire. Est-ce que quand même tu penses que ça va être nécessaire pour toi, pour prendre de l'expérience, de faire plus de temps de cage? Tu vois, est-ce que tu te diras quand même un moment, allez, si je vais essayer de chercher de vraiment pousser à la deuxième reprise pour prendre 8-9 minutes dans ce combat-là, ça pourrait être bien aussi.
J'ai déjà des combats qui sont allés au deuxième round, où j'ai finalisé au deuxième round. Ouais. Donc c'est vraiment ma vitesse de croisière à partir du deuxième round. Okay. Mais
comme Benoît Saint-Denis.
Voilà,
Benoît Saint-Denis, c'est le deuxième round aussi où il termine beaucoup.
Au deuxième round, je me sens vraiment très bien. Après, si j'ai une opportunité de finir au deuxième ou au premier ou au troisième, je vais la saisir. Je vais pas me dire, ok, je vais pas finir mon adversaire au premier round parce que il faut que je prenne du temps de cage.
Ouais, c'est ça.
Le but en fait, c'est, je trouve, c'est pas forcément d'avoir du temps de cage, c'est d'avoir une bonne gestion du combat. Ouais. C'est la gestion du combat qui est importante. On voit énormément de combattants qui se précipitent pour finir leur adversaire, souvent au niveau amateur.
Exactement.
Parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans la cage. Moi, à l'inverse, je suis très à l'aise dans la cage. Donc ça ne me dérange pas vraiment de rester actif jusqu'au troisième round.
Parce que ce style-là que tu as, qui est très intéressant, hein, que tout le monde aime regarder d'ailleurs, c'est le style en MMA, je pense, qui te plaît le plus. Mais c'est difficile, comme tu le dis, de savoir cumuler pression constante sans se précipiter sur une ouverture, sur une opportunité, sur quand on envoie un knockdown. C'est la catégorie, je dis toujours que les 70 kilos, humainement parlant, c'est la catégorie la plus difficile. Parce que c'est là où il y a le plus d'humains. 70 kilos, c'est là où tu vas avoir tous les morphotypes possibles. T'as des grands 70 kilos, des petits 70 kilos, des puissants, des moins puissants, des grappleurs, des lutteurs, des explosifs, des endurants. Il y a vraiment tout à 70 kilos.
Il n'y a pas nous on n'est pas à 70 kilos.
Si, tu regardes pas bien, pas tes lunettes. Mais c'est vrai que c'est difficile et du coup, ça demande, malgré que tu veuilles imposer ton combat, ce que je comprends parfaitement, parce que ce sont tes qualités, il y a quand même beaucoup d'adaptation à l'adversaire. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu mets beaucoup l'accent aujourd'hui à l'entraînement avec tes coachs, Fatah Mellah notamment? Lui, il dit que naturellement, tu tapes fort, même quand tu ne cherches pas spécialement à taper dur. Est-ce que toi, c'est un axe de travail de se dire, je vais taper à 70% pour essayer de faire du dégât et puis ensuite terminer, par exemple?
Bien sûr, bien sûr. Donc, à l'entraînement, on se fixe franchement régulièrement des thématiques de ne pas frapper fort uniquement.
Ouais.
Peut-être de mettre uniquement du volume, mais un débit de frappe par minute très conséquent ou un nombre de takedowns par minute qui soit important. Donc ouais, c'est des adaptations qu'on fait à l'entraînement. Après, en combat, j'ai pas l'impression de me précipiter sur mon adversaire pour faire le finish. J'ai jamais eu, par exemple, de phase où je me suis jeté sur mon adversaire.
Ouais, tu te fais contrer.
Et je me suis fait contrer. Non, c'est toujours une pression, mais une pression contrôlée.
Ouais.
C'est ça la différence avec des combattants qui pourraient être un peu plus bourrins.
Ouais. Bon, ce pour terminer sur cet UFC Belgrade, avant d'évoquer l'UFC Paris qui arrive très vite, un mot sur le public aussi, hein, parce qu'il y avait une grosse ambiance là-bas. On parle souvent de l'UFC Paris, de l'ambiance à l'UFC Paris. Tu vas nous raconter un peu comment tu as vécu l'ambiance sur place. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était seulement ton deuxième combat pro en dehors de la France. Le premier, c'était du côté de l'Irlande et tu l'avais perdu. C'était à l'UFC 200, au Bellator 299. Et donc cette défaite à Dublin. C'était en 2023. On précise que c'était il y a un petit moment déjà. Pour cette UFC, t'étais pas le choix du public, t'étais pas le numéro 1. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien gérer aussi? On l'a vu hein, au micro de Michael Bisping, derrière, tu les chauffes un petit peu en disant que t'es venu à bout de leur gars, etc. C'est des ambiances qui te donnent aussi de la force. T'aimes bien gérer ça?
Bien sûr, ça m'a donné de la motivation. Donc pendant toute la préparation, je recevais des messages sur les réseaux sociaux du public serbe qui me disait qui disait que j'allais me faire tuer. Même lorsque je rentre dans la cage, enfin pendant mon walkout, tout le monde était en train de m'insulter, de me huer. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont pas prêts pour ce que je vais leur faire dans quelques minutes. Ils sont pas préparés à ça.
Ouais.
Et après, j'ai senti vraiment que l'UFC m'avait fait signer pour faire briller mon adversaire. Je l'ai remarqué dans le comportement de la Fight Week, du fait que mon adversaire était convié à l'open workout et pas moi, dans le fait que normalement, un combat, vu que c'est un peu une star là-bas, un début UFC n'est pas en main card, ils m'ont mis en main card.
Ouais.
Donc en fait, il y avait tout qui était là pour pouvoir un peu me déstabiliser et essayer de m'impressionner, même si ça n'a pas fonctionné, pour ce début à l'UFC. Mais en fait, je suis resté vraiment stoïque. Je suis arrivé dans la cage, comme dans la cage de l'ARS, et j'ai fait le travail.
Donc que ce soit en France ou ailleurs, tu gardes une rigueur et un professionnalisme qui est le même. Et quoi qu'il arrive, quand tu vas dans la cage, c'est exactement avec les mêmes intentions.
Bien sûr, que ce soit à l'ARS chez moi ou dans la cage de l'UFC à l'autre bout de l'Europe, c'est exactement la même discipline.
Est-ce que t'as eu l'impression de participer à une soirée un petit peu historique? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de records qui sont tombés ce soir-là. 10 KO, TKO dès la première reprise, ça n'était jamais arrivé dans un événement à l'UFC. Il y a eu 12 finishes en global, c'est aussi un record. Et puis c'était le premier UFC du côté de la Serbie, donc aussi un très très gros événement à célébrer. Pour toi, c'était une soirée historique et tu l'as senti comme ça?
J'ai pas vraiment vu les combats de la soirée pour rien te cacher.
Dans le vestiaire, t'entendais ou pas? Par exemple, sur la pré-carte, c'est bien tombé aussi.
Ouais,
est-ce que tu vois ce côté-là, un petit peu la pression du public qui gueule, t'es dans ton vestiaire et t'entends cette atmosphère, ça joue aussi?
Ouais, j'entendais que le public était chaud. Après, sur le coup, j'ai pas calculé un peu les stats de 10 TKO au premier round.
Ouais.
Mais ouais, j'ai senti que le public était chaud dans les vestiaires.
Est-ce que tu aurais mérité le bonus pour toi de... Il y a eu quatre bonus de Performance of the Night. Évidemment, il y a eu beaucoup de 25K qui sont tombés parce que là, ils ont dû lâcher. Donc, il n'y a pas eu de Fight of the Night sur cette soirée-là. T'aurais mérité de prendre un 100 000 en plus ?
J'ai pas vu les autres combats, mais si l'UFC a jugé que d'autres athlètes étaient plus méritants ce soir-là, ben c'est leur choix. Mais ouais, 100 000, un chèque de 100 000 en plus, ça aurait été le bienvenu.
T'as aussi, donc, on l'a dit au micro de Michael Bisping, t'as joué le jeu un petit peu du trash talk pour répondre à toutes ces insultes que t'avais eues. Bon enfant, j'imagine. Enfin, j'espère que c'était resté un petit peu dans le bon enfant. C'était sportif et c'était basé là-dessus. Comme quoi, il n'y a pas qu'à l'UFC pareil qu'il y a des noms qui volent.
Ah, tu vois, ouais, bon, c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre.
L'UFC pareil, ça part bien.
Ouais, bah,
aux États-Unis, ça part un peu moins quand même.
Bah, hein, eux ils chantent ouais, USA, voilà, c'est voilà. Ça. Eux chantent USA, ouais, c'est ça, ouais. Principalement c'est ça, voilà. C'est ça, nous on est un petit peu plus créatifs.
Bon, en tout cas toi tu t'es toujours présenté comme quelqu'un qui préfère parler dans la cage qu'en dehors, qui préfère prouver dans la cage qu'en dehors. Est-ce que t'as aussi pris en compte qu'il fallait un petit peu épouser ce qu'aime l'UFC, c'est-à-dire ils aiment les gars qui parlent, ils aiment les gars qui s'expriment, ils aiment les gars qui vont aller faire un peu de provocation? Ça, c'est quelque chose sur lequel tu vas travailler aussi?
Bien sûr, donc je vais travailler là-dessus, donc un peu plus sur le développement de mon image. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour la suite de ma carrière à l'UFC, et surtout de développer mon anglais, d'avoir un anglais qui soit irréprochable pour pouvoir communiquer avec les médias américains sans avoir de traducteur, parce que je pense qu'avec un traducteur, ça, le message qu'on va y passer ne rend pas pareil.
Ouais, ça t'en es où pareil, enfin, au niveau de l'anglais, t'en es où? T'as répondu à Michael Bisping, tu comprenais les questions, je crois qu'il y en a une seule, mais il y a le bruit, il y a aussi la pression, il y a l'adrénaline.
Et puis c'est Bisping, quoi, il y a la course.
Ouais, enfin, j'espère que Paddy Pimblett il va jamais être consultant sur les télés américaines, parce qu'on est pas bien.
Je veux pas traduire le jeu. Enfin, bref.
c'est trop dur Paddy Pimblett. Mais c'est ouais, ton niveau d'anglais pour l'instant il en est où, si tu devais le situer un petit peu?
J'ai un niveau d'anglais, on va dire scolaire. Mais je travaille dessus là actuellement.
Ouais, là, l'avantage après dans la cage, c'est que la plupart du temps les questions restent assez simples. C'est sur le combat, tu connais les termes de fight à mon avis, comme la plupart ils sont anglais, mais en français on utilise les mêmes. Et puis derrière, c'est quel est ton prochain combat, est-ce que tu as envie? Donc je pense que tu es aussi préparé, et ça, Guillaume Pelletier, ton manager, insiste aussi beaucoup là-dessus, de te pousser à travailler tous ces aspects-là.
Bien sûr, donc c'est lui qui m'incite à plus communiquer sur les réseaux sociaux. Il me conseille sur pas mal de trucs, Guillaume, donc ça fait plaisir. C'est un expert du milieu, donc j'écoute ses conseils et c'est ce qu'il fait.
Après, quand tu gagnes tout le temps avant la limite comme Noah, à un moment l'anglais c'est pas très grave.
Oui,
tu vois Poatan notamment et tout, enfin tu vois ce que, ouais. Bon, après Poatan il a comment dirais-je, il a un style particulier et puis il a une aura particulière, ouais, ouais. Mais encore une fois, les combattants comme Noah qui terminent beaucoup et qui sont orientés finish, ils sont tout de suite beaucoup plus acceptés par le public, même si tu cries en français en plein milieu de Vegas.
Bah ouais. Et puis même exemple de combattants français qui pendant très longtemps sont venus. Manon Fiorro qui a eu un title shot. Ouais. Il y a souvent Aldric qui aide à faire la transition. Ouais. Il y a eu Fernand Lopez qui était là aussi à certains moments au début pour Cyril Gane. Ouais. Enfin voilà, c'est
clair. Après c'est vrai que c'est mieux comme ça, parce qu'aujourd'hui l'UFC c'est très digital. On parle beaucoup des interviews dans la cage. Juste au titre, Charles, t'as raison. Mais il y a toute la Fight Week. Et t'en as vécu une maintenant. La prochaine, je sais pas où ça se passera. Bon, pas à Paris en tout cas cette année, donc probablement aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est encore autre chose. La Fight Week aux États-Unis, c'est encore autre chose. Effectivement, l'anglais, ouais, ça va beaucoup t'aider là-bas.
Bon, en tout cas, on a parlé justement de Fight Week. On a parlé de Guillaume Pelletier. Et on va pouvoir le citer dans la partie qu'on va évoquer maintenant, parce que. On arrive au sujet qui forcément va faire aussi un petit peu réagir, et je crois que tu voulais aussi apporter une certaine précision par rapport à tout ça. Toujours au micro de Bisping, après ta victoire, il te demande quand est-ce que tu comptes faire ton prochain combat. Pour rappel, on est alors le 1er août, soit une trentaine de jours avant l'UFC Paris qui sera le 5 septembre. De ton côté, tu réponds que tu veux rester actif et que tu veux combattre le plus vite possible. Tu ressors de ton combat complètement intact. D'ailleurs, Antoine, au commentaire, il précise que c'est le moment ou jamais peut-être de parler de l'accord Arena. Il dit c'était le moment ou jamais, et t'as pas fait d'appel pour l'UFC Paris à ce moment-là, donc t'en as pas parlé dans la cage de Belgrade. Quel que soit le scénario, est-ce que ton management et toi, vous aviez déjà prévu, vu cette échéance du 1er août, d'exclure complètement l'idée de combattre à l'UFC Paris?
Non, du tout. On s'est d'abord vraiment concentré dans un premier temps sur performer à l'UFC de Belgrade. Et moi, j'aime pas forcément envisager la suite après un combat. Je préfère me concentrer vraiment sur mon combat. Et après, si je ressemble sur, ben là, directement, on peut parler de la suite. Mais je trouve que parler de la suite alors que le combat ne s'est pas encore passé, c'est quelque chose de délétère.
Déjà, au moment où Guillaume, donc il y a une vidéo que vous avez faite ensemble, au moment où Guillaume t'annonce cette signature à l'UFC Paris, ça c'était vrai, c'était le moment pile où tu l'apprenais, ce FaceTime avec
ça,
Guillaume, ouais, c'est là, c'est à ce moment-là. Il t'annonce le 1er août, il t'annonce Belgrade, il t'annonce que c'est la première fois que l'UFC vient là-bas. Est-ce qu'il y a une petite déception de ne pas entendre la date du 5 septembre ?
Bah non, je suis déjà euphorique de signer à l'UFC, c'est déjà un truc de fou. Donc lorsque Guillaume m'annonce ma signature, je raccroche et c'est qu'au bout d'une heure que je lui demande « Ouais mais Guillaume, au fait, j'affronte qui ?» Parce que j'étais tellement ouais, content de combattre à l'UFC que j'ai totalement oublié de demander l'adversaire. Ouais. Et après il m'a envoyé l'adversaire et j'ai pu commencer mon travail d'analyse.
Alors, du coup, l'UFC Paris n'est pas envisagé de votre côté à ce moment-là parce que c'est Belgrade qui a été privilégié et qui a été certainement proposé par l'UFC. Donc, ça s'est fait de la sorte. Simplement, par rapport à la date et par rapport à tout ce qui s'est passé derrière. Aldric Cassata qui a dit donc au micro de Jab Life que Ziam contre Sola, c'était le combat que l'UFC avait toujours voulu. Et derrière, c'est vrai que donc c'est chez Herbie, hein, évidemment. Le premier coup de téléphone, il précise qu'il a eu lieu dans la nuit du 4 au 5, donc dans la nuit du mardi au mercredi. Derrière, Guillaume Pelletier, ton manager, affirme que lui a reçu un mail. Donc nous, on rétribue simplement les versions et les faits qui sont proposés des deux côtés. C'est aussi à toi de nous livrer ta vérité là-dessus. Guillaume Pelletier dit que lui, il a reçu un mail le lundi 3 août proposant que toi, Noah Guignon, tu combattes Farès Ziam du côté de l'UFC Paris. Donc en gros, voilà, il y a juste deux versions qui se télescopent. Quelle est ta vérité à toi ? Est-ce que tu confirmes que dès le lundi, Guillaume Pelletier t'a dit « tu peux combattre à l'UFC Paris » et qu'est-ce que vous avez décidé de faire derrière ça ?
Alors oui, je confirme. Le lundi, lorsque je suis rentré chez moi, je viens à peine d'arriver à la maison que Guillaume m'appelle. Il me dit ouais, « j'ai un truc de fou, regarde, je t'envoie le mail que le matchmaker m'a transmis. » Et en fait, il avait transmis un mail avec un marqué « oui, est-ce que Noah Guignon serait disponible pour combattre Farès Ziam à l'UFC Paris ?» Et après, Guillaume a préféré refuser cette opportunité pour mon intérêt.
Ok, donc l'UFC, la solution principale envisagée, c'était Guignon contre Ziam.
Bien sûr, bien sûr.
C'était ça. Tu as accepté, je crois, et c'est Guillaume qui t'a raisonné en disant « calme-toi, tu viens de gagner ton premier combat, on va construire ça étape par étape ».
Bien sûr, ben moi je suis chaud pour fighter tout le monde. Hein. Si je peux combattre contre mon frère pour évoluer dans l'organisation, bon, mon frère, j'abuse un peu. Mais c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Après, Farès, c'est un partenaire d'entraînement. On était partenaire d'entraînement pendant un moment. C'est clair que c'est pas le combat dans la catégorie que j'aimerais faire à tout prix. Mais s'il faut évoluer dans la catégorie, ben, je serai obligé de passer par là.
C'est... Ouais, vas-y, bah,
non, mais t'as complètement raison, surtout que là, actuellement, vous êtes 5 Français dans la catégorie des 70 kilos. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir autant de combattants dans une même caté en dehors des Américains et des Brésiliens. Eux, c'est logique, parce qu'ils ont fondé l'organisation et ils seront toujours énormément. Mais ça, c'est... Enfin, voilà, vous êtes beaucoup, tous très bons, donc forcément appelés à graviter dans le top 15 ou autour. Donc effectivement, les affrontements vont se faire. Et même si effectivement, t'affronteras pas ton frère, ça, t'inquiète pas, on l'a compris, même si j'ai déjà vu ça. Ça, je l'ai vu au K1, notamment, ça s'est déjà fait.
T'as les enfants qui sont en régie, Babin.
Mais ils sont là.
On a proposé qu'ils puissent
aller. Il y a eu 2-3 clés de bras qui sont partis très vite pour des expériences sociales. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, ils vont très bien. Mais je comprends l'état d'esprit. Il y a une opportunité, ça, à Paris en plus, même si c'est vrai que vous êtes connus et que vous avez beaucoup entraîné ensemble, bah vous avez le même rêve, le même objectif, et à un moment, c'est pas parce qu'on se combat que derrière on devient des ennemis, quoi.
C'est ça, donc on a tous les deux les mêmes rêves, et voilà, faut que je réalise le mien, et si ça doit être au péril de son rêve, ben je vais devoir le faire.
Tu vas le regarder avec un œil un petit peu particulier, ce combat. Déjà, est-ce que tu seras à Paris ?
J'espère avoir des places.
T'espères avoir des places. Bon, tu vas peut-être essayer de voir avec l'UFC. Surtout que t'as pas mal de mecs de la BTT aussi qui combattent, pas mal de combattants et combattantes qui combattent sur cette carte. Avec quel œil tu vas le regarder, ce combat-là ? En disant, c'est moi, j'aurais pu être là et j'aurais pu faire quelque chose de cool. Comment tu vas le... En tant que spectateur, ça va être quoi ton regard ?
Non, pas forcément avec ce regard-là, mais plutôt avec un regard d'analyste, parce que c'est un choc de style. Ouais. Donc un striker longiligne qui est Farès, et plutôt un lutteur ouais, un lutteur qui est Axel Solar. Donc ouais, ça va être un choc de style, deux dynamiques qui sont un peu différentes. Donc ça va être intéressant de voir ça.
Qu'est-ce qui a le plus bloqué du coup du côté de votre côté dans votre réflexion, le fait que tu refuses ce combat? C'est vraiment le timing, c'était faut pas se précipiter, faut pas se jeter. Et est-ce que aller prendre un Farès Ziyam qui est tout juste sorti de top 15 et qui pourrait y rentrer en fonction des circonstances de ses prochains combats, c'était déjà aller viser un petit peu trop pour ton deuxième combat à l'UFC?
Mais c'est ça, c'est une question de timing. La préparation, comme je l'ai dit, a été très intense. Donc réattaquer un camp d'entraînement derrière une nouvelle perte de poids après ça, ça pouvait paraître assez compliqué. Et surtout, Farès c'est un fighter d'expérience, il a je crois l'équivalent de mon expérience à l'UFC, ouais. Donc c'est une expérience qui est non négligeable. Et surtout la situation c'est ok, là le 5 septembre on passe Farès Ziyam, qu'est-ce qui se passe, on sait quoi la suite. Donc pour le premier contrat on est obligé de prendre une étape au-dessus, donc c'est vraiment aller vite dans la carrière.
Ouais. Est-ce que si c'était un combattant moins bien classé t'aurais accepté, est-ce que vous auriez accepté l'UFC Paris?
Franchement ça je sais pas, moi j'écoute mon management et mon coach, parce que Guillaume avant de m'appeler je pense qu'il a téléphoné à Fatah pour lui parler de l'opportunité, et voilà je pense que c'est lui qui a dû lui dire dans quel état physique je me trouvais à ce moment là.
Ce qu'il faut aussi considérer Baba, c'est que du côté de l'UFC il y avait un sentiment d'urgence, ouais. Parce que la carte elle était pas encore totalement montée, ils avaient trouvé Saladin Parnasse contre Dan Hooker, ça s'était calé, c'était ouais. Annoncé en main event, et il leur fallait aussi pour compléter la carte un gros main event. Peut-être que vous avez considéré cette option-là aussi en vous disant, si nous contactent qu'un mois avant, c'est aussi un petit peu en essayant de trouver des solutions de dernière minute, et peut-être que même dans la considération, c'était estimé que l'UFC cherchait entre guillemets des routes de secours peut-être, et que du coup c'était dévalorisant pour eux. Est-ce que tu le vois comme ça ou pas du tout?
Pas vraiment. Alors, t'as pas tort du tout. Après, je crois pas que ce soit une question de route de secours. Franchement, ma lecture du truc, puisqu'on est quand même un petit peu dedans, nous. J'ai l'impression qu'ils se sont réveillés à 8 semaines de l'event et qu'ils se sont dit « Oh merde, on a des combats d'undercard, mais sur la main card, on n'a pas vraiment fait le taf, en fait. » Et ils ont... Tu sais, à force, tu sais, leur stratégie des 6 premiers mois de l'année, ils étaient beaucoup dans l'attente. L'attente de ce qui va se passer à la Maison Blanche, l'attente de ce qui va se passer machin, l'attente. Sauf qu'ensuite, l'été est arrivé et là, on a tous les gros events qui arrivent, tous les numérotés qu'ils enchaînent. Pour rappel, il y a 2 numérotés en octobre, notamment, t'as l'UFC Paris, t'as l'UFC Noche. C'est des gros events pour l'UFC, ça. Vraiment, ils ont un automne où c'est des événements importants. Là, je parle de business, surtout, au-delà du sportif. Pour leur business, c'est très important. Et je crois vraiment qu'ils se sont réveillés un petit peu tard et qu'il a fallu regarder qui était disponible en France et qu'on a... ce que j'aime appeler notre génération dorée, les 4 qui ont fait tous les UFC Paris jusqu'ici, et tu rajoutes à ça William Gomis par exemple, les 4 qui sont très bien classés, je parle de Nassourdi Mavov, je parle de Manon Fiorot, je parle de Cyril Gane, je parle de Benoît Saint-Denis, qui sont dans le top 5, top 6 de leur catégorie respective, comme ils ont un peu dépassé entre guillemets l'UFC Paris, qui sont dans des considérations bien importantes sûr, ouais. pour des combats pour le titre, etc., là ils se sont dit ok, on a qui comme français, qu'est-ce qu'on fait quoi, tu vois, et là t'as un gars super excitant qui gagne que par KO, que avant la limite, t'es obligé de le proposer, donc je le vois plus comme ça qu'une histoire de route de secours, tu vois ce que je veux dire. Personnellement je comprends que tu veux combattre tout le temps et tout le monde, je suis complètement d'accord avec ton coach et ton management.
Ouais.
Tranquille.
Alors, je pense que c'est ce qui a été voulu par Guillaume, parce que t'as accepté le combat de ton côté et Guillaume t'a dit non, on va y aller tranquille. Donc c'est ce qu'on baba avec des mouvements en plus si vous êtes sur YouTube et que vous voyez les vidéos.
Tu vas monter ton identité à tout le monde, quitter. Et après ça va monter.
Ouais. Et évidemment le côté route secours, c'était pour essayer de mettre un peu de profondeur.
Non, bien sûr, t'as raison.
C'était pas du tout quelque chose que j'estimais. Mais moi je le vois même du côté inverse. J'imagine que c'est comme ça pour qu'on termine sur ce sujet. Noah, c'est un respect tout de suite qui donne, qui est énorme, c'est-à-dire de pouvoir combattre en co-main event, certainement, parce que ce choc franco-français, si ça avait été toi, même si t'as un peu moins de combats à l'UFC qu'Axel Sola, mais il aurait été en co-main event aussi certainement, la marque de respect que te fait l'UFC sur cette proposition est assez énorme.
Bien sûr, pour un deuxième combat à l'UFC, combattre un ancien top 15, c'est, je sais pas si c'est déjà vu pour un fighter de mon expérience en tout cas. Moi je l'ai perçu vraiment comme une grosse comme un gros respect de la part de l'UFC en mon égard. Donc ça faisait plaisir, et surtout la hype qu'il pouvait avoir derrière ce combat, donc un combat à l'UFC Paris potentiellement en common event, c'est pour un deuxième combat à l'UFC, c'est franchement extraordinaire.
Ouais, c'était bien de clarifier aussi la situation pour apporter votre vision du côté de Noah Guignon et de la BTT par rapport à la chronologie de ce qui s'est passé sur la manière dont cette carte de l'UFC Paris s'est montée. Est-ce que l'UFC Paris c'est quand même une étape que quoi qu'il arrive tu voudras cocher dans ta carrière?
Bien sûr, en 2027, j'aimerais combattre devant mon public. J'ai eu très rarement l'opportunité de combattre devant mon public, à part à l'ARES à Strasbourg. Ouais. Autrement, c'était des ARES hors de ma zone, on va dire. Mmh. Et ouais, là, vu que je suis un peu plus connu, j'aimerais bien voir ce que l'UFC Paris pourrait donner en 2027.
Donc l'année prochaine, tu accepteras pas de combat qui va être plus tard que le mois d'avril, par exemple, pour essayer d'être certain, d'être prêt et d'être calé sur l'UFC Paris assez en avance.
On va voir avec les opportunités, mais on fera en sorte de pouvoir être dans les meilleures conditions pour l'UFC Paris de l'année prochaine.
Et d'ailleurs, je crois que sur l'UFC Paris précédent, comme Faziam s'était retiré pour des raisons familiales de son combat contre Caio Fernandez, c'est vous qui aviez approché l'UFC en disant « moi je suis dispo et je peux combattre en moins de 70 ?»
Bien sûr. Donc, lorsque Fares s'est retiré pour des raisons familiales, Guillaume m'a tout de suite appelé, m'a dit « écoute, est-ce que t'es chaud pour le remplacer ?» J'ai dit « écoute, ouais, des fenêtres de tir pour rentrer à l'UFC, il n'y en a pas 50 000 dans une carrière, donc let's go, on y va. » Et l'UFC ont préféré signer un Anglais, un ancien champion du Cage Warrior.
Qui a subi les low kicks dévastateurs de KO.
Sans le dénigrer, qui est déjà ressorti de l'organisation, parce que c'est pas bien passé pour lui.
Ça a été une belle bataille de low kick hein, quand on a vu ce qui s'est passé sur ton fight. Est-ce que Caio Fernandez a fait aussi du côté du sien? Ça a été qu'il a perdu ce week-end d'ailleurs, je crois.
Il a perdu en quelques secondes, exactement, par KO.
Exactement.
Jalin Turner.
Ouais, tout à fait. T'as cité les quatre fantastiques un petit peu du MMA français qui brillent du côté de l'UFC depuis plusieurs années. Juste un mot et ta vision sur cette catégorie des moins de 70 qui est stacked, hein, comme on dit, que ce soit du côté français, mais même en règle générale. On en parlait même l'autre jour ici avec Benoît Saint-Denis, parce que Saledine Parnasse qui pourrait arriver dans le top 15, peut-être Ousmane Nurmagomedov qui pourrait aussi vite arriver dans le top 15. Ce seraient deux apports de très très haut vol pour cette catégorie des moins de 70 kilos. Toi, ces duels franco-français, d'abord dans cette catégorie, parce qu'il devrait y en avoir d'autres, à commencer par le Solaziam qui va avoir. T'étais prêt à affronter Ziam, c'est quelque chose que tu favorises aussi dans ta carrière, tu dis que c'est bien de les faire, tu dis que c'est ça qui va aussi faire parler de toi un petit peu plus ici en France.
Je pense qu'en termes médiatiques, le choc franco-français, il y a rien de mieux. Donc lorsqu'on voit deux Français s'affronter au plus haut niveau, c'est vraiment ça ce que le public aime. Après, moi je suis pas forcément pour, à part naturellement dans le top 10, parce que là il y aura pas beaucoup d'intérêt à combattre d'autres personnes. Mais je préférais que les Français on s'entraide pour monter vers le sommet de la catégorie. Mais bon, ça c'est pas toujours possible. Donc s'il faut s'affronter, on s'affrontera.
C'est quelque chose qu'aussi ici on appelle de nos voeux depuis longtemps, d'avoir des beaux duels franco-français. Il n'y en avait eu qu'un seul dans l'histoire de l'UFC, il s'était mal terminé, c'était Yanis Guémouré contre William Gomis avec une victoire de Gomis, mais un petit peu qui s'est terminé en eau de boudin, comme on dit, expression tout à fait désuète. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va favoriser l'exposition de ce sport et qui peut, si les combats sont beaux, en faire ressortir deux vainqueurs finalement.
Ouais, c'est un peu ça. Après, voilà, il y a les deux visions. Évidemment que les combattants, surtout quand tu rentres à l'UFC, c'est une organisation internationale. Donc, tu as envie d'aller affronter les meilleurs internationaux parce que tu t'es fait les dents sur le circuit français et que maintenant, tu es prêt pour la suite. Maintenant, comme je disais, avec la densité de talents français dans cette catégorie-là, 5, c'est quand même exceptionnel. Ouais, j'insiste parce que c'est vraiment un truc de ouf. Il faut vraiment se rendre compte que 5 combattants français, alors qu'on va faire notre 5e event français là seulement, et donc ça fait 6 ans à peine que le sport est légalisé. Je suis sûr que si tu regardes dans l'histoire, tu vas pas avoir d'autres occurrences comme
et,
ça.
Et attention, parce que 5, et s'il se trouve que les scénarios font en sorte que Parnasse gagne et que Ziam gagne, en gros, t'as 3 mecs dans le top 20 UFC, plus ou moins.
Ouais, voilà,
parce
c'est
que
ça.
Fares rentrera pas directement, mais il va regagner des places. Donc c'est ça,
il y a l'intensité. Donc c'est vrai que nous, en tant que médias, évidemment, c'est très intéressant en termes d'histoire à raconter et en termes d'engouement à créer. Le public français, il est pas mal réticent de base. Il aime bien que les Français soient showcase face aux autres. Petit à petit, là, ça commence à arriver parce que voilà, ils ont eu les Baki Doumbé, ils ont eu les combats comme ça qui les ont intéressés. Maintenant, c'est vrai que voilà, pour faire grandir le sport globalement en France, si ton UFC Paris 27, c'est un main event entre deux Français. Moi, je te dirais qu'on a gagné. Moi, je te dirais qu'on a réussi à s'imposer sur la scène internationale.
Et pourquoi pas Dana White? Huawei, t'as déjà dit qu'on serait, on pourrait être une terre de numéroté. Donc on va voir ce qui est.
Ouais, moi je.
Ce qui est, ouais, ouais, on peut mettre quelques doutes, mais ouais.
J'y crois pas trop.
Qui sacrifie un bel événement à Las Vegas, bien rémunérateur pour un UFC.
Franchement, entre la probabilité d'un UFC numéroté en France et le fait que je puisse te vendre le pont de l'île Saint-Denis, je pense que je peux te vendre le pont de l'île Saint-Denis avant.
Tu commences léger, tu commences pont de l'île Saint-Denis, tranquille. Tu viens filtrer Paris.
Le pont Alexandre après, putain. Mais là, je te parle du pont.
On commence les négociations hors antenne. Pas... Mais bon, je suis intéressé par ta proposition. Noah, on a encore un petit peu de temps ensemble et avant de terminer sur ta vision à moyen ou à court terme qu'on a déjà un petit peu évoqué. Petit rappel pour ceux qui découvrent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu viens de Strasbourg et c'est par le judo hein, et surtout par la boxe anglaise que tu en viens à débuter le MMA à l'âge de 15 ans. À quel moment tu dis que tu aimerais en faire ton métier et surtout à quel moment tu sens que les gens autour de toi se disent ah, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose dans ce sport.
En fait, c'est dès mes premières compétitions. Donc, je m'entraînais au début dans un petit club de village, donc vraiment pas beaucoup de niveau. Mais
à côté de Strasbourg,
ouais. Exactement. Et lorsque j'allais en compétition, ben, je gagnais toutes mes compétitions, peu importe que ce soit en pancras ou en grappling, alors que je m'entraînais vraiment pas plus que ça. Je prenais vraiment pas ça au sérieux. Et je me suis dit, si je m'y mets un peu plus sérieusement, ben, je vais peut-être pouvoir avoir des meilleurs résultats. Je suis allé au championnat de France, je suis allé tout seul au championnat de France avec mon père comme coach. J'ai gagné à ce moment-là. Et après, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, ben, je me suis lancé à fond dedans. Mais toujours dans des structures qui n'étaient pas forcément adaptées pour le haut niveau. Donc, des clubs associatifs dans lesquels, ben, voilà, on ne peut pas demander à un entraîneur qui entraîne bénévolement de consacrer sa vie à des athlètes. Et du coup, j'ai fait mes débuts professionnels comme ça. Je suis allé jusqu'au Bellator avec ce mode de fonctionnement un petit peu à l'arrache. Mmh. Et là, j'ai compris qu'à ce moment-là, ben, y avait un petit plafond de verre et que... qu'il fallait péter ce plafond de verre en me professionnalisant davantage.
C'est ça, Baba, toi qui connais aussi bien le milieu de l'entraînement, que ce soit associatif ou alors dans les cours loisirs, etc. C'est le game changer, ça va être ça. C'est peut-être un coach qui à un moment va se dire tiens, je vais prendre de mon temps, je vais consacrer aussi peut-être un peu de mon argent à accompagner ce mec-là, mais parce que je crois en son potentiel. Ça peut être ça la bascule d'une carrière.
Alors oui et non. Oui, parce qu'il te faut un accompagnateur. Dans le cas de Noah, c'est son père, donc c'est mieux, tu vois. Mmh. Parce qu'au moins, t'as moins ce truc-là de se dire que t'es en train de prendre le temps d'un gars, entre guillemets, d'un responsable associatif, alors qu'il a sa vie de famille, etc. Mmh. Bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Dans le pied-point, c'est comme ça. On a de professionnels que le nom, mais rien n'est professionnel. Donc, c'était week-end, c'était jour de congé, etc. Donc, gros big up à tous mes amis coachs pied-point ou en anglaise. Mmh. Pour moi, le vrai game changer, ça va être le coach justement qui va te dire « Moi, je t'ai amené là où je pouvais. Et maintenant, le but, comme je vois que tu as un vrai potentiel de professionnel, le but, c'est de t'amener dans une structure qui va vraiment te pousser jusqu'au bout. » Pour moi, le game changer, il est là. Mmh. Donc, c'est à la fois le coach qui va pouvoir prendre sur lui, entre guillemets, de se dire « Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais aujourd'hui. » Et tu vois, parce que tu peux pas avoir d'ego quand t'es coach. En tout cas, c'est ma vision de la chose.
Il faut pas, en tout cas.
Et voilà, tu vas pas garder ta pépite pour toi en disant, en fait, t'es trop fort. Moi, je peux pas t'amener plus loin. J'ai pas les moyens, j'ai pas le temps disponible, etc. Et le but, ouais, c'est comme Noah, c'est de pouvoir ensuite prendre conscience au niveau du combattant aussi, de se dire tous les deux, bon, ok, on a été jusque-là comme ça, un peu à l'arrache. Qu'est-ce que je peux intégrer comme structure pour me permettre d'aller au plus haut niveau? Le game changer, il est là.
C'était exactement la mentalité qu'avait Eddie Carda. Exactement ouais. Ça. Il a su qu'au bout d'un moment, il ne pouvait pas m'emmener plus haut. Donc, il m'a encouragé à me professionnaliser derrière.
Tu te dis que peut-être, comme est en train de vivre Ziam d'ailleurs, qui est parti du côté de Denver avec Trevor Whitman et qui a du coup forcément fait un choix de partir un peu plus loin de Lyon et de SBI qui l'avait aussi formé et qui l'a accompagné durant beaucoup d'années, tu te dis que peut-être un jour, pour passer encore une étape, il faudra aussi aller aux États-Unis par exemple?
Je pense pas forcément s'installer aux États-Unis parce que pour le moment... on n'a pas vu de Français qui sont expatriés aux États-Unis et qui ont réussi à performer derrière, du moins c'est très rare.
Tchèque Congo à l'époque, peut-être, qui était parti aux États-Unis.
Ouais, mais je dirais que c'était une époque différente. Ça n'avait pas de structure en France.
Sur la période plus moderne, en tout cas, des combattants actuels, on a cité nos quatre fantastiques, comme on les appelle, c'est vrai que ça se passe en France.
Je pense que pour des camps d'entraînement, les États-Unis, ça peut être bien de partir hors camp d'entraînement un mois pour voir autre chose, différents sparring partners, différentes méthodes d'entraînement. Moi, je suis parti très souvent en Thaïlande m'entraîner et je remarque pas de différence de qualité d'entraînement avec la Ghost Arena, par exemple, à Lyon. Ouais. Je trouve justement, en France, on a une meilleure qualité d'entraînement parce que les salles sont plus petites on a de la meilleure qualité. Les coachs sont plus disponibles, alors que dans des salles comme Bangtao par exemple, c'est un peu l'usine, c'est bien hors camp. Mais préparer un combat là-bas, c'est quelque chose que je ne ferai pas.
Plus dur de travailler le spécifique et le centrer sur un combat, sur un objectif, quand t'es un petit peu fondu dans la masse là-bas, j'imagine. Et peut-être la particularité aussi de ta catégorie, c'est que c'est plus facile en France de trouver des bons sparring.
C'est ça, en France, on a des très bons sparring. On a 5 Français qui sont à l'UFC, on a d'autres athlètes qui performent dans les autres organisations, comme le PFL, le KSW. Donc c'est très facile d'avoir des sparring.
T'es arrivé un, on va dire, pile au bon moment, parce que la légalisation du MMA se fait en 2020. Et c'est en 2021 que tu commences ta carrière professionnelle. Ça a joué aussi tout ça? Est-ce que avant tu disais, tiens, je vais pas aller au Luxembourg, je vais pas aller en Belgique, je vais pas aller ailleurs pour faire mes premiers combats pro, je vais attendre que ça arrive en France et là je commencerai à penser à quelque chose de sérieux en pro?
En fait, avant, je pense que c'était plus intéressant pour moi de prendre de l'expérience en amateur. Donc, en faisant des petites compétitions, que ce soit MMA amateur ou en pancrace encore à l'époque. À ce moment-là, c'était plus intéressant de gratter un peu d'expérience. Après, en 2021, c'était le moment pour moi de passer en professionnel. Je me sentais prêt. Et du coup, j'ai franchi le pas à ce moment-là.
C'est vrai que cette génération, la génération de Noah, qui donc en 2020 avait 18, 19, 20 ans, c'est la génération qui est arrivée pile au moment où il y a beaucoup plus, le champ des possibles est beaucoup plus ouvert quand tu es en France.
Ouais, clairement. La France se structurait à ce moment-là. Donc, au niveau fédéral, déjà, tu as des compétitions, ce qui est très important. On est un pays de sport fédéral, de sport associatif, de compétition fédérale. Et c'est ce qui fait qu'on a atteint ces niveaux-là et que, surtout dans les sports de combat, et vous savez très bien que je dis toujours, on est très bon dans les sports de combat parce qu'on a un vrai tissu associatif qui est important et un vrai tissu fédéral. Coucou Lionel Brezéfa, il faut qu'on te reçoive bientôt. J'y pense là, donc je le dis et je sais que t'écoutes. mais voilà, donc ouais, c'est vrai que cette génération-là, c'était cool pour eux. Moi, quand ils ont légalisé le MMA, j'avais dit à l'époque, je m'en fous complètement de voir l'UFC arriver en France ou PFL. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va pouvoir enfin structurer le sport nationalement parlant. Est-ce que le gars de Lille, il pourra affronter le gars de Mulhouse sans passer dans un gymnase sans fenêtre à la Courneuve?
Pour moi, le plus gros repère visuel, c'est le panneau de basket qui est relevé. quand tu vois la cage ou le ring
tu vois ce que je veux dire, et qu'on ait des compétitions régulières. Donc c'est ce que la a pu faire rapidement avec la MMA League, des choses qui ont permis de se confronter au plus haut niveau français, de s'entraîner ensemble, d'avoir des équipes de France, d'avoir des stages. Et là, on progresse tous en tant que nation. Et là, ça devient difficile parce que quand toi, en tant qu'athlète, tu vas dans une compétition amateur nationale et tu dis ça va être chaud aujourd'hui, déjà c'est bien. Déjà psychologiquement, tu fais un grand pas déjà, tu vois.
Quand t'étais en amateur aujourd'hui, d'autant plus quand t'es en pro et par exemple à l'UFC, quand t'arrives en tant que Français, tu sens que on est une nation respectée ou pas? Pas encore à la hauteur de ce que ça devrait être.
Franchement, je pense qu'on n'est pas encore une nation respectée. On est un peu sous-estimé même, je dirais, par rapport à aux autres nations telles que les Américains. Moi, je le sentais en Serbie, c'était franchement le petit Français, il va se faire éclater samedi, on va passer une bonne soirée. Alors que pas du tout, on a vraiment des gros talents en France.
Ouais, c'est bizarre parce que je pense que maintenant on a quand même bien compris, que le monde a bien compris. On a des Français qui sont dans quasiment toutes les catégories, qui sont pour beaucoup classés. Et qui ont combattu pour le titre, et on fait des UFC Paris maintenant tous les ans, et on se rend bien compte que les Français gagnent quasiment tout le temps. Donc c'est un peu bizarre cette perception, mais les Américains ont toujours une défiance envers nous, on le sait.
Petit sentiment de supériorité, il y aura toujours ce sentiment de supériorité en tout cas. Il faudrait que par exemple que, je sais pas, un Nassourdinov batte Sean Strickland pour une ceinture à l'UFC, et peut-être que ça aidera aussi à pouvoir faire en sorte que les Américains nous regardent avec un regard un petit peu différent. Noah, à l'annonce de ta signature, et je l'assume aussi complètement parce que c'est comme ça que je l'ai pensé, on s'est dit, ce gars-là a signé à l'UFC, mais il vient de nulle part. Je ne sais pas si Baba aussi, tu partages ce sentiment-là quand je dis il vient de nulle part, c'est-à-dire, mais en gros, mais d'où il vient, d'où il est sorti d'un coup, il a popé comme ça. On n'a pas entendu, moi, je n'ai pas entendu de rumeur avant, tiens, peut-être que Noah Gugnon va pouvoir signer à l'UFC.
C'est ça, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de rumeur.
C'est quand je dis vient de nulle part,
on
c'est de là,
spécule,
parce que t'as une carrière, t'as fait Bellator, t'as fait Ares, donc c'est vraiment sur le côté spéculation, mais en fait, ce n'était pas du tout annoncé ni du tout prévu. C'est quoi le déclic qui, à ton avis, a fait en sorte que l'UFC s'intéresse à toi, et à partir de quel moment tu savais qu'ils avaient un œil sur toi?
Je pense que, en fait, déjà, j'étais chaud pour prendre Coé Fernandez l'année dernière à l'UFC Paris. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, l'UFC avait déjà mon nom.
Ouais.
Et de base, moi, après mon dernier combat à la RES, je voulais participer au Dana White Contender Series. Donc, tout de suite, le lendemain, Guillaume avait fait un mail de candidature pour transmettre mon nom au matchmaker. Et du coup, j'ai eu mieux, j'ai signé à l'UFC derrière. Mais je pense que ouais, c'est un concours de circonstances, c'est une opportunité. Et le fait que voilà, j'ai accepté l'opportunité sans poser de questions, j'ai pas négocié le salaire, j'ai pas négocié l'adversaire, j'ai juste dit oui. Et le MMA, c'est un sport d'opportunité. Donc si j'avais pas saisi cette opportunité à ce moment-là, je sais pas quand est-ce que le train serait passé. Donc voilà, faut saisir les opportunités, c'est un sport d'opportunité, faut profiter de chacune d'entre elles.
J'aime bien la formule que t'as donnée tout à l'heure, Baba, en disant le premier combat à l'UFC, c'est une sorte d'entretien d'embauche. Tu mets le costume, tu fais en sorte que vraiment tout se passe au mieux et que tout soit parfait. C'est vrai que dans les interviews qui ont succédé à ta signature à l'UFC, t'as dit c'est vrai que j'ai beaucoup plus de sollicitations, et moi le premier, je t'ai envoyé un message dans la foulée pour qu'on essaye de pouvoir organiser quelque chose. Donc t'as eu beaucoup plus de sollicitations au moment où tu rentres dans cette cage de Belgrade. T'as une forme de dire, bah écoutez, là, vous m'avez pas calculé avant, les gars. Je vais vous prouver que vous avez eu tort de pas me calculer avant.
Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, j'ai beaucoup plus de sollicitations qu'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, certains médias s'en mordent les doigts parce qu'ils auraient pu, mettre en lumière un talent français.
C'est, par exemple, des médias comme nous, AMC, qui diffusons le MMA. Alors, précision, c'est qu'on diffuse pas à Arès, donc il y a aussi certaines liaisons qui sont un peu plus difficiles pour recevoir des combattants, étant donné que sur RMC Sport, on ne diffuse pas à l'Arès. Est-ce que, par exemple, tu t'es déjà dit, RMC Sport, il ne m'appelle pas et je ne comprends pas pourquoi, et franchement, il y a un petit manque de respect?
Non, pas du tout. J'ai pas perçu ça comme ça. Je me suis dit, en fait, il me fallait un combat qui puisse me mettre en lumière pour que les médias puissent s'intéresser à moi. Ça aurait pu être un combat qui me mette en lumière à l'Arès aussi, contre un adversaire avec une hype ou beaucoup de followers. Là, en l'occurrence, c'était l'UFC contre un adversaire avec beaucoup de followers et une hype dans son pays d'origine. Ouais. Donc, les deux circonstances étaient réunies.
Deux défaites en carrière, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté aujourd'hui? C'est deux défaites complètement différentes. Il y en a une dans une très grosse orga qui est avant la limite. Il y en a une autre dans une plus petite organisation qui te fait aller jusqu'à la décision. Depuis, tu as remporté tes cinq combats qui ont suivi, tous avec la manière, tous très rapidement comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces deux défaites?
En fait, c'est avant tout de la professionnalisation qu'elles m'ont apporté, ces défaites. Lors de mon combat au Bellator, il me semble que j'ai combattu milieu du mois de septembre. Mais en fait, je me suis rendu compte que on parlait de sport associatif. L'été, juillet, août, le gymnase est fermé.
Ouais, tout est fermé.
Donc, comment on prépare le combat? Je l'ai préparé sur un terrain de foot avec mon pote, à faire des pas d'ours, du sprint. On l'a vraiment préparé à l'arrache. Mais bon, moi, j'ai vu le Bellator comme une opportunité à l'époque.
Ouais.
Et je pensais que c'était pareil comme l'UFC, une opportunité qui ne pourrait pas se reproduire. Donc du coup, j'ai serré les dents, j'ai fait ma préparation à l'arrache et je suis allé au Bellator comme ça. Bon, ça n'a pas porté ses fruits. Puis après, le combat d'après, j'ai pris un adversaire qui avait un solide palmarès quand même. Il venait de la CA, donc il avait une défaite. Sa seule défaite, je crois, c'était contre le champion de la CA à l'époque, Daoud Chakiev.
Oui.
Donc c'était quelqu'un de solide, je vais jusqu'à la speed décision avec lui. Encore aujourd'hui, je ne suis pas forcément d'accord avec cette speed décision. Mais bon, j'ai pardonné les juges de ce soir-là. Et après, suite à cette défaite-là, je suis parti en Thaïlande. Donc je suis parti un petit moment en Thaïlande. Et là, j'ai découvert ce que c'était que l'entraînement de MMA. Et lorsque je suis arrivé en Thaïlande, je me suis rendu compte que en France, je faisais vraiment du striking, de la boxe et de la lutte. Mais je ne faisais pas réellement de MMA. Okay, donc je ne faisais pas de... Je faisais pas de cash control, je travaillais jamais mes transitions. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux en Thaïlande. Et après ça, après la Thaïlande, j'ai un ami qui a déménagé sur Lyon, et ce qui m'a fait rencontrer Fatah Menan. J'ai directement accroché avec lui et le groupe pro. J'ai vu que c'était une petite salle, mais avec une grosse qualité d'entraînement, et qui n'en avait rien à envier avec la salle d'où je venais, Bang Tao. Et du coup, j'ai décidé de m'installer là-bas, et on a fait un premier test lors du Coliseum, et le courant a super bien passé. Et après l'histoire a fait que il m'a suivi dans tous mes autres combats.
Décision dure à prendre de ça y est, déménager, quitter tout ce que tu connais, quitter toutes tes habitudes, ça a été dur à prendre ou pas du tout? Justement, quand l'entraînement s'est bien passé, le test en gros s'est bien passé, tu t'es dit ça y est, les conditions vont être optimales pour que je puisse briller?
Ben, c'est le changement de ville, tout ça est toujours un peu compliqué, mais après c'est des sacrifices qui sont nécessaires pour un combattant. Moi je l'ai pas vraiment mal vécu, je suis très bien lorsque je suis à Lyon et ouais, non, moi je l'ai vraiment bien vécu.
Qu'est-ce que Fatah, quelle est sa manière de travailler, qu'est-ce qui t'a concrètement apporté dans ton jeu?
En fait, déjà, il m'a apporté un aspect stratégique et il a mis en lumière des forces chez moi. Donc, j'avais des forces, comme par exemple mon body lock sur le cache contrôle, dont même moi, je n'étais pas au courant. C'est lui qui a mis en lumière ça. Et également, mon travail de pression. Mon travail de pression m'a dit, écoute, tu peux mettre super bien la pression, tu devrais travailler avec telle ou telle combinaison, faire tel enchaînement. Et en fait, ouais, il a vu chez moi des forces que même moi j'ignorais.
En fait, arrivé en diamant à polir, et lui il a vite compris en fait qu'est-ce qu'il pouvait faire pour garder ton style propre, mais t'as faire améliorer sur tous les points.
Voilà exactement ça. J'ai une petite anecdote, c'est que avant mon combat au KOF contre Nicolas Di Franco, tout le monde pensait que j'étais un striker et que j'étais un grappleur, pardon. Et lorsque j'ai combattu Di Franco, j'ai fait uniquement que de la boxe anglaise face à lui. Et tout le monde disait, ouais, mais il a une anglaise de fou, d'où il vient, il s'entraîne où, il a combien d'années d'anglaise? Alors que non, je faisais pas de boxe anglaise spécialement à côté.
Ouais, c'était vraiment un travail spécifique pour ce combat. Et encore une fois, ça te permet d'avoir un style très complet. Et c'est très difficile de pouvoir anticiper comment on peut aborder un combat avec toi. Je pense que c'est peut-être une de tes plus grosses forces aujourd'hui. C'est que le mec en face, il doit préparer plusieurs niveaux différents de menaces et c'est jamais simple, ça.
Ça te convient d'avoir cette image-là, de ne pas vraiment savoir ce qu'il faut travailler pour préparer Noah Guignon?
Ouais, mais en fait, quoi qu'il arrive, je suis un combattant très complet, j'ai pas vraiment de lacunes dans un domaine, donc peu importe dans quel domaine ou dans quel compartiment du combat on va, je serai jamais à la ramasse.
Pour compléter l'écosystème Noah Guignon, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment sur la potentielle apparition, ta potentielle apparition à l'UFC Paris, Guillaume Pelletier, manager aussi, cette structure qui compte notamment le nom le plus connu, Benoît Saint-Denis, ça t'aide aussi, c'est-à-dire entre ta structure d'entraînement et ta structure de management, à essayer de réfléchir à rien et à savoir que ce soit training ou que ce soit management, tout est bien géré et toi tu peux te concentrer juste sur ton niveau et juste sur ta préparation.
Ben ça c'est un gros avantage parce que avant à l'époque je devais un peu calibrer mon entraînement moi-même, donc c'est-à-dire faire mon programme d'entraînement moi-même, définir mes propres axes de progression, alors que là je délègue vraiment tout à Fatah. C'est lui qui va me dire, écoute, cette semaine tu vas faire la leçon à tel moment, tu vas aller à la lutte à tel moment, tous les matins c'est cours MMA, donc là-dessus je lui délègue vraiment tout le travail. Et pour le management, c'est Guillaume qui gère, moi je lui ai donné les clés de ma carrière, et c'est à lui de gérer comme il pense que ce soit le mieux pour moi.
Vu les nouvelles qu'il t'a annoncé récemment, je pense que quand tu vois Guillaume Pelletier sur le téléphone, tu réponds assez rapidement. Tu sais, même la nuit, je pense que t'as à ne pas déranger, mais vas-y, Guillaume, au cas où, je le laisse, parce que les dernières nouvelles étaient pas mal. D'ailleurs, je veux préciser aussi que, mine de rien, tu sais, je disais tout à l'heure, celui qu'on n'a pas vu venir, etc., mais Benoît Saint-Denis, c'était pareil à l'époque. Quand il arrive en 2021, moi, en tout cas, je me souviens de ce sentiment-là, quand il fait son premier combat, qu'il perd en plus. Avant, il était au Brave, mais du coup, en France, on entendait un peu moins parler, et je m'étais dit, mais il vient d'où ce gars-là? C'est incroyable. Et finalement, il a la carrière qu'on lui connaît, donc ça peut présager de très très bonnes choses pour toi aussi. Un mot juste sur la suite, très rapidement, il nous reste 2-3 minutes, Noah. Si tu pouvais choisir ton prochain adversaire demain, t'as déjà quelques noms en tête ou pas du tout?
Là, à l'heure actuelle, non, pas du tout. Je connais essentiellement le top 15, top 20 de la catégorie. Mais après, je crois que c'est une catégorie qui compte 90 athlètes, donc je les connais pas tous. Je prendrai l'adversaire que l'UFC me proposera.
T'es un gros consommateur de MMA? Tu regardes toutes les soirées?
Ouais, je regarde quasiment toutes les soirées, surtout ma catégorie de poids.
Est-ce que t'as déjà un objectif par exemple, en te disant, tiens, être dans le top 15, je sais que je pourrais le faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4, dans 5 combats. Est-ce que t'as déjà des objectifs assez clairs et chiffrés comme ça dans ta tête?
Non, pas vraiment. Je prends vraiment les combats... étape par étape, je vais prendre ce qu'on me proposera, et si l'UFC me propose un combattant du top 15 pour mon quatrième combat ou pour mon deuxième contrat à l'UFC, je prendrai ce qu'ils me donneront.
il a un seul combat, Noah. Forcément, le but pour un, à l'UFC, le but pour un combattant qui vient d'arriver dans l'orga, c'est voilà, de réussir en tout cas son premier contrat, d'aller chercher minimum 3 victoires sur les 4 combats qui sont, j'imagine, signés pour l'instant de ton côté. C'est ça, prendre 3 victoires sur les 4 et au moins tu peux quasiment t'assurer, surtout si c'est des finishes premier round, deuxième round, tu peux t'assurer de pouvoir re-signer avec l'UFC derrière.
Bah, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir un maximum de victoires sur ce premier contrat-là. Surtout que c'est un premier contrat, hein. Donc comme Noah l'a dit tout à l'heure, il a accepté l'opportunité, donc il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de choses comme ça, ça va intervenir après pour Guillaume, surtout si ça se passe bien les 2-3 premiers combats. Après, t'as d'autres façons différentes dont ça peut se passer. J'ai cru comprendre avec Axel notamment qu'en saisissant l'opportunité de Paris, ça lui a permis déjà de pouvoir sécuriser un futur contrat. Enfin, j'espère pas dire de bêtises, sinon Aldric me reprendra dans leur émission, mais il me semble que ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, mais c'est vrai que idéalement ce premier contrat là de 4 combats, il faut voir le nombre d'athlètes qui passent à l'UFC à l'année, le nombre d'athlètes qui viennent, qui font ce premier contrat là et qui ne restent pas malheureusement parce que voilà, il y a pas ce que l'UFC avait voulu dedans. Donc il y a à la fois gagné, ça on est vrai, mais ça ne suffit pas. On est très bien placé pour le savoir. On a un consultant, collègue et ami qui a fait 2 contrats à l'UFC, Taylor Lapillus, et qui a toujours été en positif. Mais l'UFC a décidé de pas vouloir négocier plus loin parce qu'il n'y avait pas ce qu'il voulait dedans. Entre
et
guillemets.
Combien lui fasse, il va combattre la ceinture
du
BFL au mois de décembre.
Donc voilà, la carrière de Noah est lancée. Il est arrivé au plus haut niveau. Maintenant, la suite, c'est ça, entre guillemets, entre tes mains, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que l'organisation de l'UFC, c'est une organisation complexe. Mmh. Et on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants.
Noah Guignon, merci beaucoup d'avoir été dans le MC Fighter Club à nos côtés. Un plaisir de te recevoir, j'espère pour toi aussi ça a été.
Merci à vous pour l'invitation, c'était top.
Bah, un grand plaisir, merci à Guillaume Pelletier aussi qui a favorisé aujourd'hui, en tout cas qui a organisé ta venue. Je crois que tu fais plusieurs médias aujourd'hui à Paris et qu'après tu retournes à Lyon, c'est ça?
Je retourne sur Strasbourg à Paris.
Strasbourg, ouais. Et donc tu vas faire encore une petite pause là quelques jours ou... T'es à l'entraînement aussi du côté de Strasbourg?
Non, là je suis à l'entraînement du côté de Strasbourg, je m'arrête pas.
Ah, j'espère, attends, t'as pris 2 semaines après, faut pas abuser quand même. Hein. Bon retour à toi Noah, et évidemment beaucoup. Tu sais que les portes d'RMC Sport sont ouvertes quand tu le souhaites, et merci d'avoir été avec nous, merci Baba comme d'habitude.
Merci Charles,
c'est bien. Évidemment on se retrouve très vite pour le RMC Fighter Club.
Ça vient vite, ouais, lundi on fait une grosse preview de l'UFC Paris. Et puis on enchaîne. Hein.
Exactement. Allez, on enchaîne. On espère que, évidemment, vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à donner vos avis. C'est toujours utile à l'émission. Et merci aujourd'hui à Flavien et à Sylvain qui étaient en régie. Ciao, ciao.
RMC Fighters Club.